c'est le mois de sensibilisation à la fibrose kystique. J'en parle avec Olivier Gérôme, directeur régional du Québec chez Fibrose Kystique Canada. Bonjour, Monsieur Gérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est la fibrose kystique?
Bien, la fibrose kystique est, par définition, considérée comme étant une maladie rare parce qu'on en compte que très peu de cas. Donc, c'est 4300 cas. Oui, ils ont une belle définition, là, très cartésienne. Lorsqu'on est en deçà de 1 sur 20 000 cas,
okay.
On tombe dans cette grande famille des maladies rares qui regroupe plus de 1200 ici au Québec. Donc, c'est une maladie d'origine génétique, c'est-à-dire qu'on en hérite de par le bagage génétique de nos parents,
mm-hmm.
et ce n'est pas une maladie que l'on peut guérir. Donc, historiquement, c'est une maladie dont on gérait les symptômes. Certaines conséquences, bien sûr, sur tout ce qui est l'appareil respiratoire, une accumulation de mucus dans les poumons, aussi des difficultés au niveau du système digestif. Tout ça nécessite un certain fardeau au quotidien quant à la prise de médicaments, des traitements, de la physiothérapie, le fameux clapping dont certains sont au courant, là. Donc, c'est non seulement une maladie qui nous suit toute notre vie lorsqu'on en est atteint, mais qui demande la part de tous dans la famille pour accompagner la personne qui est touchée. Hein.
Oui, c'est presque un travail à temps plein, s'occuper de soi quand on est aux prises avec cette maladie.
Ben, tout à fait. Travail à temps plein, surtout que la fibrose kystique, si on revient plusieurs décennies en arrière, là, c'est une maladie qui était exclusivement attribuable à l'âge pédiatrique. Là. Mais maintenant, les personnes atteintes, grâce aux avancées médicales, peuvent vivre très pleinement là, jusqu'à l'âge adulte. Même certains experts planchent en ce moment sur des programmes d'ordre gériatrique. Donc, la médecine a évolué, mais c'est rapidement pris en charge par les parents qui sont les proches aidants au jour 1 et qui accompagnent leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient en pleine autonomie là, pour ensuite se prendre en main à titre d'adulte.
Mais donc, c'est encourageant de voir qu'il y a des avancées et tout ça parce qu'il y a des recherches et si vous faites des levées de fonds, c'est justement pour que ces recherches-là se poursuivent. Mais en ces temps difficiles de pandémie, de confinement, c'est vrai que ça affecte toutes les activités de sensibilisation, de levée de fonds. Comment votre organisation, à vous, s'est ajustée jusqu'à maintenant?
Eh bien, c'est une sacrée gymnastique. Donc déjà, premièrement, notre mission a plusieurs volets. Donc, je dirais que certains de ces volets-là ont pris plus ou moins d'importance au cours des dernières semaines. Donc, évidemment, tout ce qui est programme d'accompagnement, éducation, soutien direct aux familles, ça a pris une importance sans pareil.
Ah oui.
Le nombre de coups de téléphone et de requêtes, que ce soit par courriel ou par notre centre d'appel, on a déjà excédé le nombre d'appels qu'on a sur une année en 2 mois. Donc, la communauté, les familles ont besoin d'une information juste, à jour et vérifiée plus que jamais en ce moment.
Donc, oui, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'inquiétudes de la part de ceux et celles qui vivent avec la fibrose kystique qui attaque le système digestif et le système pulmonaire également. Alors, on n'a pas besoin de la COVID-19 en plus quand on a cette maladie.
Ah, tout à fait. Bien, c'est une menace supplémentaire qui s'ajoute si on veut, au risque biologique de la vie de tous les jours. Hein. C'est oui, la fibrose kystique étant considérée comme une maladie d'ordre chronique, oui, les patients sont considérés parmi les populations les plus sensibles là, par rapport à la COVID. Donc, et en plus de ça, ils sont déjà dans cet esprit de confinement, de distanciation sociale au quotidien, ces familles, n'est-ce pas?
C'est pas nouveau pour ces familles-là.
L'hygiène et l'éthique personnelle à avoir au quotidien, ils l'avaient déjà.
Oui.
Par contre, là, c'est une menace sans précédent qui se pointe dans tout ça. Donc, ça fait redoubler, si on veut, de précautions.
Oui, c'est ça. Il faut être doublement précautionneux, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais faire attention, puis il doit y avoir de la peur générée justement par cette COVID-19 qui est menaçante pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux et celles qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunodéprimés?
Ben, tout à fait. Cette part-là aussi s'explique par le grand vide que la communauté, en général, on fait face, là, face à la COVID. C'est-à-dire qu'on en sait très peu. Hein,
c'est le mystère maladie. Total.
Donc, mais de plus en plus de cas ont été rapportés dans le monde de personnes atteintes par la fibrose kystique qui ont été guéries. Donc, il y a une publication qui est parue dans un grand journal médical il y a 2 semaines qui faisait état justement de comment les fibroses kystiques peuvent être affectées par la COVID. Et c'est une publication médicale qui montre que ça peut être contrôlé. Mais il ne faut pas pour autant abaisser sa garde. Je pense que
non.
Les mesures de distanciation sociale et d'hygiène et d'éthique personnelle à avoir dans cette période très spéciale, là, c'est la clé pour vivre sa vie pleinement dans le contexte actuel.
Et ceux qui vivent avec la fibrose kystique, est-ce qu'ils sont inquiets par rapport à la médication, au fait de peut-être avoir des difficultés à obtenir leurs médicaments?
Ben, c'était le cas avant la COVID, c'est le cas pendant la COVID et ce sera sans doute le combat principal après la COVID. On parlait de la recherche des grandes avancées médicales un peu plus tôt. Ça fait des bonds géants en fibrose kystique. Il y a une toute nouvelle génération là, de traitements. On dit des traitements modulateurs du gène CFTR, c'est-à-dire qu'au lieu de gérer les symptômes découlant de la maladie, ces médicaments-là vont venir traiter le défaut génétique même à l'origine de tous ces symptômes. Donc, on parle d'une valeur thérapeutique incroyable, mais malheureusement, au Canada, au Québec, ces médicaments-là tardent à arriver au chevet des patients. Tous les jours, on voit que dans le monde, ces médicaments-là sont approuvés, disponibles et couverts par les régimes publics, que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Australie. Et ici, au Québec, on n'a pas cette chance-là. Donc, on se réjouit pour nos semblables, mais on peut juste être frustré de la situation dans laquelle on est ici au Québec.
Mais quoi faire pour faire avancer les choses dans le bon sens?
Bien, sensibiliser les personnes qui peuvent faire la différence, prendre des décisions et orienter nos politiques pour permettre à ces médicaments-là de se rendre jusqu'aux patients. C'est la plupart des pays qui ont accès aux modulateurs de génération actuelle ont une stratégie en maladies rares. C'est-à-dire que les lignes directrices, l'algorithme pharmaco-économique derrière l'approbation ou non de la couverture du médicament, en ce moment, n'est pas adapté au Québec. On traite toutes les maladies comme si c'était des maladies communes.
Okay.
Alors qu'il y a une réalité budgétaire tout autre quand on parle que, un médicament en fibrose kystique au Québec, c'est 1200 patients maximum, mais c'est des médicaments qui ne sont pas destinés à 100% des patients, seulement parfois une maigre poignée. Donc, on peut se retrouver à avoir que quelques dizaines de personnes qui sont éligibles à ce médicament-là. Donc, l'impact budgétaire est minime sur un budget national.
D'où l'importance du mois de sensibilisation à la fibrose kystique. Il reste encore quelques petites minutes, Olivier Jérôme,
oui.
Le temps de vous inviter à me parler de la marche faite de la FK de l'histoire ancienne.
Ben, c'est l'événement phare de ce mois de la sensibilisation. Donc, le mois de la sensibilisation, c'est justement pour sensibiliser le grand public à la réalité que représente la fibrose kystique au quotidien, aussi sensibiliser les décideurs, la communauté médicale, bref, tout ça à travers un événement rassembleur. Donc, c'est près de 70 marches qui sont organisées au Canada. Il y en a 7 ici au Québec, dont une à Montréal, qui vont rassembler au Québec là, près de 2000 participants au total.
Mais j'imagine que ce ne sera pas un vrai rassemblement en chair et en os. Là.
Ça va être virtuel. Hein? On roule à l'ère du virtuel
ben
en ce
oui.
moment. Je pense que tout le monde est rendu un expert Zoom, WebEx ou Team en ce moment. La communauté va pouvoir faire des petits clins d'œil de leur côté en plein confinement, trouver leur façon de donner vie à ce défi virtuel-là. Mais l'objectif est de s'inscrire et de se rassembler et aussi de ramasser des fonds parce que à chaque année, c'est 3,5 millions qui est ramassé par la marche de la fibrosité de l'histoire ancienne.
Bon, bien, on souhaite que vous atteigniez ce montant-là. Si on veut s'inscrire, M. Jérôme, on va sur fibrosquistique.ca?
Exactement.
Donc, OK.
Il y a deux sections phares en ce moment, celle sur la COVID, mais il y a bien évidemment le mois de la sensibilisation et la marche, simplement suivre les instructions et tout ça vous invite à vous inscrire. Et, une petite plateforme bien faite qui fonctionne sur toutes les plateformes, tablettes, mobiles, PC, Mac, bref.
Puis on va marcher virtuellement.
On peut marcher, on peut faire du vélo, on peut faire un défi de gros mangeurs, on peut faire un défi coiffure. Bref, l'important, c'est de faire un petit clin d'œil pour se dire on soutient nos familles ASCA ici au Québec, au Canada. On se rassemble et on donne pour faire avancer la recherche. Qui sait, la prochaine génération de modulateurs aura peut-être un pouvoir curatif. Donc, faut pas arrêter.
Non, faut continuer, faut continuer. Puis ça se déroule à la fin mai, ce défi virtuel?
Exact. Donc, le mois de la sensibilisation, tout au mois de mai, et le défi, le 31. On clôt ça en beauté. Il y aura des cérémonies d'ouverture et de fermeture virtuelle lors de cette journée toute spéciale, mais on espère voir le monde se joindre à nous en grand nombre.
Parfait. Et puis, on suit vos activités sur votre page Facebook, qui est vraiment intéressante. Puis, si on veut faire du bénévolat, est-ce que c'est toujours possible?
Ah, tout à fait. C'est pas parce que le contact humain n'est plus de ces jours-ci que le contact humain par téléphone ou autre, puis il y a toujours moyen d'aider. Nos programmes, nos actions, eux continuent et ont besoin de la part des membres de notre communauté à différents niveaux. Donc, toute personne qui souhaite se joindre à l'effort peut nous contacter via notre site web. Il y a différentes façons de s'impliquer. Elles sont toutes bonnes, toutes valables et toutes aussi importantes. Donc, on encourage quiconque le désir de joindre l'effort.
Olivier Jérôme, directeur général régional du Québec chez Fibrose Kystique Canada. Merci beaucoup. Bonne chance. Lâchez pas.
Merci beaucoup. Bonne journée.